ζημιών του Ευρώπη.
Ρεσκρούτσια Ευρώπης.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. À quelques jours du déclenchement du Brexit par Theresa May et 3 semaines après la prise de fonction de Donald Trump, l'Europe s'interroge plus que jamais sur son avenir. Et il est loin d'être assuré face à la montée générale des populismes et des prochaines élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. L'Europe est fragilisée par une multitude de crises qui vont du ralentissement économique et donc d'un niveau de chômage élevé à celui, par exemple, des migrations. Elle peine donc à convaincre qu'elle est une partie de la solution et non le problème. Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire européen en charge de l'économie, de la finance, de la fiscalité et des douanes. Et pendant une heure ou presque, Pierre Moscovici, vous allez tenter de nous convaincre que malgré des apparences parfois trompeuses, l'Europe veut le bien des Européens. Nous sommes en direct du studio 41 de RFI. Et dès à présent, vous pouvez nous suivre en vidéo sur RFI.fr et sur YouTube Live RFI. À mes côtés, pour vous interroger, Clémentine Forissier, rédactrice en chef du site Contexte.com. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Et nous serons rejoints tout à l'heure par Eric Scholl, le directeur de Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Alors, Pierre Moscovici, le Brexit et Donald Trump sont deux grosses épines dans le pied de l'Union Européenne. Deux cas de figure sont envisageables. Soit elle donne l'occasion à l'Europe de rebondir face à ses défis, soit elle précipite l'Union Européenne dans le repli et le déclin. Alors, on le sait déjà, Theresa May a fait le choix d'un Brexit dur, c'est-à-dire sans compromis avec l'Union Européenne. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement? Et qu'est-ce que ça va donner ce Brexit pour l'Europe ?
D'abord, vous avez raison de souligner que nous vivons dans un environnement géopolitique qui est porteur à la fois de formidables menaces et puis d'énormes opportunités. Les menaces, on les voit, c'est Donald Trump, une expérience historique, dirais-je, unique pour les États-Unis, un président d'un nouveau type.
Et donc pour nous aussi.
Pour nous aussi, Vladimir Poutine qui reste quand même menaçant. La Chine qui est à la fois puissante et fragile, et puis on voit bien les menaces terroristes, on voit la Turquie qui est entre deux rives, entre deux mondes, entre deux époques. Et dans ce contexte-là, en effet, soit l'Europe se défait, soit elle cède au repli nationaliste, soit elle cède au souverainisme, au populisme, et dans ce cas-là, c'est la fin du projet européen tel que nous l'avons connu, c'est son déclin inéluctable. Soit au contraire, nous sommes capables de nous dire, voilà, dans ce monde-là, on a besoin d'unité, on a besoin d'ensembles régionaux structurés, on a besoin de force, et donc c'est le moment du sursaut européen. Je pense que l'Europe a cette capacité, si elle est capable de réaliser à quel point, vous parliez de partie de la solution, elle est un atout pour ses habitants. Et à quel point, dans ce monde, on a besoin de cette unité, de cette force. L'unité fait la force. Et l'unité européenne fait la force des Européens. Si on accepte la défaisance de l'Europe, le délitement de l'Europe, si on accepte chacun pour soi, à ce moment-là, nous nous retrouverons 27 pays, chacun de son côté, sans capacité à peser dans la mondialisation. Nous serons faibles, nous serons appauvris. Et c'est pour ça que je combats le populisme et que je pense que Mme Le Pen, par exemple, quand elle propose une sorte de Frexit, la sortie de l'Union Européenne, a une attitude qui est masochiste, voire suicidaire, absurde pour la France.
Alors, en ce qui concerne le Brexit, pour l'instant, les 27 font un front uni face au Royaume-Uni. Est-ce que ça va durer? Quel impact prévisible pour le Brexit pour l'Union Européenne?
Je pense qu'il y a un vrai front uni sur le Brexit.
C'est rare de penser Jean-Claude Juncker dans une interview qu'il a donnée à la radio publique allemande.
J'en parlais il y a peu de jours avec Michel Barnier. Nous étions ensemble
dans la CFDT.
Michel Barnier est le négociateur de l'Union Européenne sur cette question du Brexit. Et je pense, pour ma part, que nous sommes capables d'avoir une unité sur ce point. Sur d'autres sujets, c'est plus compliqué, en effet, d'arriver à bâtir un avenir commun. Mais sur le Brexit, au fond, il y a trois principes de négociation qui sont très clairs, me semble-t-il. Le premier, c'est que Madame May va négocier pour le compte de la Grande-Bretagne, donc elle va défendre les intérêts britanniques, le deuxième, et donc nous allons négocier pour le compte des 27. Nous allons défendre nos intérêts. C'est bien intérêt contre intérêt.
Et ça donnera le divorce.
C'est une forme de divorce, bien sûr, puisque les Britanniques l'ont choisi. On peut le regretter, je le regrette, je pense que c'est une erreur pour la Grande-Bretagne et pour l'Union Européenne. Je pense que chacun a à y perdre. Je ne suis pas du tout d'accord avec Donald Trump qui dit le Brexit c'est merveilleux. Non, le Brexit c'est loin d'être merveilleux. C'est au contraire un énorme problème, c'est une énorme difficulté pour nous tous, mais voilà, il faut y aller. Deuxième principe de négociation, c'est ce que vous avez appelé le Brexit dur. Moi, j'aime pas ce mot dur, mou, c'est pas la question. Brexit ordonné, Brexit propre, clean Brexit, comme on dit en anglais. Ce qui veut dire que, en effet, puisque Madame May reconnaît qu'elle ne peut pas rester dans le marché intérieur, eh bien, il va falloir inventer quelque chose de radicalement nouveau. Et là, je vous donner un principe qui est fondamental pour nous, les Européens à 27, c'est que les quatre libertés du marché intérieur, la liberté de circulation, des biens, des services, des capitaux et des hommes sont indissociables. On ne permettra pas qu'il y ait du cherry picking, c'est-à-dire qu'on prend ce qui vous arrange et puis on laisse ce qui vous dérange.
L'Europe à la carte.
Pas d'Europe à la carte. Et donc c'est lié au troisième principe, qui est que forcément, le fait de ne plus être dans l'Union européenne doit se traduire par une situation moins favorable pour la Grande-Bretagne que le fait d'y être. Les Britanniques ont inventé les clubs. Et dans un club, vous avez des droits, des privilèges. Donc ils y sont attachés, moi beaucoup moins. Mais il n'empêche que quand vous sortez du club, vous n'avez plus les privilèges du club. Et donc, il n'est pas possible d'avoir le meilleur des deux mondes. Il n'est pas possible d'avoir les avantages d'être dedans et les avantages d'être dehors.
Et ça, elle a eu l'air de l'accepter, puisque dans son discours d'il y a quelques semaines, elle dit « Je comprends qu'il n'y aura pas un marché intérieur dans lequel on peut piocher, et donc je demande d'en sortir, etc. » Donc on a l'impression qu'elle a quand même pris conscience de
Elle a pris conscience de la sortie du marché intérieur, mais elle doit espérer, ou peut-être, les Britanniques espèrent-ils, qu'ils vont garder un certain nombre de ses libertés, un certain nombre de ses accords, des phases transitoires qui sont extrêmement favorable. Nous ne sommes pas pour la punition. Il ne s'agit pas de faire un Brexit punitif, mais il faut faire un Brexit ferme, clair, net. Et de ce point de vue-là, encore une fois, nous allons défendre nos propres intérêts. C'est le mandat de négociation de la Commission pour le compte des 27. Et sur le Brexit, je les sens unis, oui.
Et comment vous expliquez, alors, à ce moment-là, que Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, utilise des expressions dans son interview ce week-end qui sont quand même très pessimistes. Il dit « Les Britanniques vont réussir sans trop de difficultés à diviser les 27 autres pays de l'Union européenne. Ils savent déjà très bien comment s'y prendre. On promet telle chose à l'État A, telle autre à l'État B, encore telle chose à l'État C. Et au final, il n'y a pas de front uni européen. »
Et Jean-Claude Juncker, c'est quand même votre patron, hein, Jean-Claude Juncker.
Oui, c'est mon patron, comme vous dites, c'est le président de la Commission, c'est mon ami. C'est un homme qui a une expérience européenne unique. Et je pense qu'il y a deux dimensions dans ce qu'il dit. La première, c'est que justement, comme il a été Premier ministre du Luxembourg pendant près de 20 ans, ou 20 ans, et qu'il est maintenant président de la Commission européenne, il se souvient d'un temps où l'Europe, c'était Kohl, c'était Mitterrand, c'était Jacques Delors. C'était pas un âge d'or, mais il y avait des projets. Au fond, il nous dit, voilà ce que l'Europe était, et voilà ce qu'elle doit être. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il veut pointer les problèmes avec lucidité, pour faire un peu comme ça un signal d'alarme, en disant « réveillez-vous ». Justement, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, je le prends
alors,
comme
ça. Un signal d'alarme ou un coup de blues ?
Je le prends comme un signal d'alarme. Un responsable politique de cette force, de cette puissance et de ce rôle ne peut pas avoir de coup de blues, n'a pas de coup de blues. Mais en même temps, je sens chez lui une forme de lucidité. Et quand on est lucide comme ça, il faut aller de l'avant. Et c'est à quoi il nous incite chaque semaine quand nous nous rencontrons dans le collège des commissaires.
Alors, Theresa May a dit que, eh bien, il fallait trouver une solution. Ils ont dit qu'on pouvait pas avoir le meilleur des deux mondes. Donc, il va falloir choisir. Et Theresa May a menacé, si un accord à la fin de ces deux ans de procédure de divorce ne pouvait pas aboutir, eh bien, elle imaginait de transformer son pays en un immense paradis fiscal. C'est une menace à prendre au sérieux. Alors, déjà, le Royaume-Uni est une forme de paradis fiscal avec l'île de Man, avec un certain nombre de Jersey, Guernesey. Ça a évidemment un peu changé. Mais tout de même, c'est une menace à prendre au sérieux, un grand paradis fiscal au port de l'Europe.
Il y a déjà une chose qui existe, c'est la souveraineté fiscale du Royaume-Uni comme la souveraineté fiscale de chaque pays membre de l'Union européenne. C'est-à-dire que tous sont libres de fixer leur taux d'imposition sur les sociétés. C'est par exemple le cas de l'Irlande qui a un taux d'imposition.
Et ça va en gros de 12% à 33, 35,
voilà.
36.
Et donc si vous voulez, de ce point de vue-là, si déjà la Grande-Bretagne décide de baisser ses taux d'impôt sur les sociétés, et elle l'a fait, elle a décidé de passer, je crois, à 17% en 2020, et elle est libre de le faire, avec quand même une petite difficulté, c'est qu'il faut trouver des recettes fiscales correspondant à ces pertes-là, alors que les déficits britanniques, on le sait, vont augmenter très fortement, il faut le signaler, du fait du Brexit, parce que le Brexit, ça coûte cher à l'économie britannique, je le dis, à ceux qui sont tentés par le Frexit, sortir, ça coûte des dizaines de milliards d'euros, ça coûte des points de croissance, chaque année. Et ça coûte aussi en termes de force et de capacité à ouvrir ces marchés. Je ferme cette parenthèse. Mais une fois que j'ai dit ça, souveraineté fiscale, est-ce que ça va devenir pour autant un paradis fiscal? Je n'y crois pas une seconde. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Un paradis fiscal, c'est un pays qui met en œuvre des mesures, des législations qui permettent aux entreprises multinationales notamment de procéder à ce qu'on appelle de la planification fiscale agressive, c'est-à-dire qui rétablissent le secret sur l'échange d'informations, qui mettent en place des rescrits fiscaux qui sont cachés aux autres. Et ça, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne, même hors de l'Union européenne, sera toujours un pays membre du G7, sera toujours un pays membre du G20, sera toujours un pays membre de l'OCDE et sera lié par les conventions fiscales internationales, les standards fiscaux internationaux qui ont fait des progrès considérables. Donc, si je devais résumer en toute objectivité, je pense que la Grande-Bretagne peut être un compétiteur fiscal redoutable, mais pour ça, elle n'a pas besoin, à la limite, de sortir de l'Union européenne.
L'Irlande l'est déjà, par exemple.
Ça ne dépend pas, en plus, de la qualité du Brexit. Je ne crois pas une seconde qu'elle puisse être ou qu'elle veuille être un paradis fiscal. Et de toute façon, nous le refuserons. Nous le refuserons de manière acharnée, dans le cadre des instances internationales auxquelles nous participons tous. Parce que quand je vais au G7, parce que c'est moi qui représente l'Union européenne au G7 ou au G20 au niveau des ministres des Finances, je vois mon collègue ministre des Finances britannique, il sera là demain comme il est là aujourd'hui, et il ne pourra pas, en réalité, avoir un autre état d'esprit. Sauf si, mais ça peut nous concerner tous, l'élection de Donald Trump fait que les États-Unis eux-mêmes décide de s'écarter de ces standards. Et là, il y a un défi redoutable pour nous tous, c'est-à-dire de réussir à garder une gouvernance internationale qui soit coopérative, notamment sur tout ce qui est régulation bancaire, sur tout ce qui est accords commerciaux, et on voit bien une tendance protectionniste, et sur la bonne gouvernance fiscale. Alors, on a fait des progrès considérables là-dessus. On a fait en sorte maintenant que les multinationales commencent à payer leurs impôts là où elles créent des profits. Je ne voudrais pas que ce monde régresse.
Justement, l'autre grosse évolution de la planète, c'est bien sûr Donald Trump. Alors sur la carte du monde, Donald Trump arrive à situer la Chine assez facilement, dont il faut se méfier bien évidemment, la Russie avec laquelle on peut éventuellement s'entendre, l'Europe à part la Grande-Bretagne n'est pas dans son champ de vision. Il voit les Européens comme des gens pas sérieux qui assurent leur sécurité aux frais des États-Unis via l'OTAN, sans parler de nombreuses remises en cause. Vous en avez abordé quelques-unes, on va y revenir. Sur la défense, l'éternel serpent de mer de l'Europe, est-ce que l'idée d'une défense européenne refait surface? Je dirais, malgré une absence de volonté réelle des Européens, elle a été évoquée au sommet de Bratislava. Est-ce que la réalité de cette nouvelle situation va faire que cette Europe de la défense, il va falloir la prendre peut-être un peu plus au sérieux?
Qu'est-ce qu'on sait sur Donald Trump et qu'est-ce qu'on ne sait pas? D'abord, il faut se garder des caricatures, des préjugés, il y donne parfois prise, je l'avoue, et des procès d'intention. Il est président depuis 21 jours, et son administration n'est pas complète. Par exemple, je ne connais pas je ne l'ai pas rencontré, il n'est pas encore désigné, le secrétaire au Trésor, il n'a pas été confirmé par le Congrès, et ça devrait être chose faite assez rapidement. Donc, ils vont se mettre en place, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire précisément sur les grands sujets de régulation internationale, et puis une présidence, petit à petit, trouve son rythme et son équilibre avec des contre-pouvoirs. Mais il y a des choses qu'on sait déjà. On sait déjà, un, que ce président, c'est America First. Ce qui veut dire, en pratique, que la Pax Americana, la défense pour le compte des autres, ça va reculer fortement. Donald Trump a dit que l'OTAN était obsolète. Je pense qu'il s'apercevra après que c'est une instance utile. Mais tout de même, oui, il faut que les Européens assurent mieux leur défense. Et donc, il faut faire des progrès en la matière. C'est ce que la Commission propose. Par exemple, quand elle propose de mettre en place un fonds pour l'innovation et la recherche en matière de défense, et puis aussi d'aller vers des commandements qui soient plus intégrés. Je crois, oui, que l'heure de l'Europe de la défense sonne pour nous. Et que Donald Trump ou pas, on sent bien quand même qu'il y a un changement, qui est un changement durable, qui va là se réaliser, que les États-Unis ne veulent plus être en quelque sorte le gendarme du monde pour le compte des autres.
Ce qui est, entre parenthèses, tout à fait compréhensible.
Oui et non. Le gendarme du monde, on ne leur demande pas, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait une solidarité entre les Européens et les Américains.
Confortable qui pour sont, les Européens.
Mais qui sont liés à notre histoire, justement à l'appartenance commune à l'OTAN, à des intérêts géostratégiques, géopolitiques, à cette relation étroite, dont j'espère qu'elle finira par se rétablir, parce que Donald Trump, connaîtra l'Union européenne. Il ne va pas l'ignorer longtemps. C'est quelque chose qui avec quoi il finira par avoir à faire, parce que nos intérêts sont tellement liés. Intérêts de sécurité, intérêts globaux, lutte contre le changement climatique. Et là encore, je pense que des évidences finiront par s'imposer. Donc voilà la première chose qu'on sait. On sait aussi que la politique budgétaire américaine sera terriblement expansionniste, ce qui peut avoir un effet à court terme positif pour la croissance américaine, mais ce qui peut avoir, Christine Lagarde l'a dit, des impacts moins positifs sur le reste du monde, notamment à travers la hausse des taux d'intérêt, la hausse de l'inflation. On sait que ce président sera nationaliste et protectionniste. Alors là, pour le coup, des signaux ont été donnés tout de suite avec la fin du TPP, c'est-à-dire l'accord asiatique, avec la renégociation de l'ALENA, et le TTIP, comme l'a dit
Trump,
est au congélateur pour le moment. Enfin, on sait que ce sera un président terriblement inégalitaire. Et je ne parle pas des décrets migratoires et autres. Et par rapport à ça, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Nous devons réagir. Il est temps que l'Europe reparte. Et je veux dire que quand on a un président qui dit qu'il veut bâtir des murs, nous, nous devons bâtir des ponts humains, des ponts culturels, des ponts commerciaux. Quand on a un président américain qui veut mener des politiques ultra inégalitaires, par exemple en défaisant l'Obamacare, etc., nous devons dire que nous devons mener des politiques de lutte contre les inégalités, prendre en compte les perdants de la mondialisation, valoriser notre modèle social. Quand on a un président américain qui attaque certaines valeurs qui sont des valeurs qui sont fondatrices de la démocratie américaine. Nous devons dire que nous sommes fiers d'être européens. Qu'est-ce que c'est qu'être européen?
C'est habiter un continent
où il n'y a pas de peine de mort, où le droit à l'avortement existe, où les hommes et les femmes sont
égaux. Alors est-ce qu'on est tous d'accord
discrimination est refusée.
On n'est pas tous d'accord là-dessus. Vous voyez les récentes prises de position sur les réfugiés de Donald Trump et les réactions de la Pologne et de la Hongrie qui saluent les décrets qui ont été pris alors qu'ils ont été par la suite en plus invalidés par la justice américaine. Comment est-ce que vous comprenez cette attitude de certains pays de l'Union européenne qui sont conciliantes à l'égard de prises de position, qui sont contraires à nos valeurs, éventuellement même contraires aussi à notre politique, alors même que ce président a des positions vis-à-vis des Russes qui sont peut-être négatives ou inquiétantes pour ces mêmes pays? Comment est-ce que vous comprenez
cette attitude? Mais elles ne sont pas inquiétantes pour ces mêmes pays. Il y a une espèce de convergence d'intérêts qui est frappante quand même. Vous avez Donald Trump qui est approuvé par Vladimir Orban, et puis Viktor Orban, et puis vous avez Vladimir Poutine qui va voir Viktor Orban. Il y a une espèce de convergence de vue qui, pour nous, doit être ce signal d'alarme. Quand vous avez un président qui dit le Brexit, c'est merveilleux, imitez-le, et qui met en place des murs, et quand vous avez de l'autre côté un président russe qui souhaite aussi diviser l'Europe, tous les deux ont envie d'une Europe affaiblie.
Je
pense que nous devons refuser à la fois Donald Trump et à Vladimir Poutine ce plaisir de notre affaiblissement. Et je le dis, tout à l'heure je parlais de Marine Le Pen. Marine Le Pen, objectivement, sert les intérêts de la Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis de Donald Trump. Parce qu'elle partage leurs sentiments. Mais oui, il y a une internationale populiste. Même si Monsieur Orban et puis même Monsieur Kaczynski, c'est pas tout à fait pareil que Madame Le Pen, c'est pas la même famille de pensée populiste, ils appartiennent pas au même groupe.
Il y a des nuances.
Monsieur Orban appartient
au PPE,
sur le PPE, les conservateurs. Mais tout ça, c'est peut-être à ça que faisait allusion en réalité Jean-Claude Juncker. Il faut que nous soyons capables d'aller de l'avant. Et à un moment donné, Madame Merkel l'a dit, on peut envisager aussi une Europe à géométrie variable, c'est-à-dire que quand certains freinent ou ne veulent pas aller de l'avant, on doit pouvoir avancer. Ça, je pense que, à un moment donné, il faut le dire, l'Europe ne doit pas être. Moi, je suis vraiment pour l'Europe unie. Je suis pour l'Europe des 27. J'ai milité pour l'élargissement de l'Union européenne. Je ne m'en plains pas. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on soit capable d'avancer à 27. Et donc, le fait d'être à 27 ne doit pas paralyser l'Europe et ne doit pas non plus empêcher autre chose qui, pour moi, est décisif, c'est de renforcer l'euro. L'euro à 19, parce que c'est là le cœur de l'intégration politique et économique de l'Europe.
Pierre Moscovici, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète, et on vous retrouve dans moins de 3 minutes. À tout de suite.
Priorité santé.
Claire Edon.
Cruzami en toute Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge de l'économie, de la finance, de la fiscalité et des douanes. À mes côtés, Clémentine Forissier, rédactrice en chef de Contexte.com, elle est toujours là. Et nous ferons dans un instant un détour par la rédaction de Courrier International avec Éric Scholl, le directeur de Courrier International. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo sur RFI.fr et sur YouTube Live RFI. Pierre Moscovici, pour rester sur quelques-unes des initiatives du nouveau président américain, Donald Trump s'est entouré des conseillers de Goldman Sachs. Il est en train de remettre en question les garde-fous péniblement mis en place au lendemain de la crise financière de 2008. Alors va-t-on vers une nouvelle crise de la finance folle avec cette déréglementation bancaire qui s'annonce du côté de l'autre côté de l'Atlantique?
En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous devons continuer à garder la philosophie de la régulation financière et bancaire, et nous devons même aller plus loin dans ce qu'on a appelé l'union bancaire. Parce que je pense qu'il faut absolument éviter la reproduction des situations qui ont engendré la crise de 2008, avec l'absence de garde-fous spéculatifs, l'absence de réponse en termes de résolution bancaire quand une banque est amenée à faire faillite.
Si l'Europe est bonne élève et si les États-Unis...
Nous devons, encore une fois, garder le cadre de collaboration qui est le cadre du G20, continuer à discuter dans le cadre du G7, le faire aussi dans le cadre des accords de Bâle, et encore une fois, pour ce qui nous concerne, on a besoin de l'union bancaire. L'union bancaire, c'est la supervision des banques, c'est-à-dire connaître leur situation, c'est la résolution des banques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand une banque se trouve en difficulté, ce sont les règles que nous appliquons sur les banques, et je pense qu'il faut aller encore plus loin en matière de garantie des dépôts, d'assurance des dépôts.
Ça n'arrive pas.
Ce qui est en effet un sujet qui est aujourd'hui est bloqué au Conseil, mais dont j'espère qu'il se débloquera, notamment à l'issue des élections allemandes, puisque ça tient beaucoup en réalité à la validation ou l'adaptation de ces dispositifs à un système bancaire qui est de nature un peu particulier, avec des caisses d'épargne locales dont les Allemands souhaitent que la spécificité soit protégée. Je pense en attendant qu'il faut continuer d'avancer. Nous ne devons absolument pas revenir en arrière. On le voit bien, le système bancaire européen a fait des progrès considérables, s'est considérablement affermi, a amélioré la qualité de ses bilans, s'est recapitalisé. Il reste encore trop de crédits non-performants, ce qu'on appelle les NPLs, qui sont des poisons pour l'économie. Donc, je le dis, ce n'est pas parce que tel ou tel choix est fait aux États-Unis. S'ils veulent avoir d'autres Lehman Brothers, c'est leur problème. Nous devons continuer à protéger notre système bancaire, parce que protéger le système bancaire, c'est protéger les déposants. Protéger les déposants, c'est éviter la contamination d'éventuelles crises financières sur l'économie réelle.
Alors on est bien d'accord, la gouvernance bancaire et la gouvernance de l'euro a fait d'énormes progrès. En cas de coup dur, en cas un gros coup de vent, quelle serait quand même la résistance de l'euro aujourd'hui?
Mais d'abord, ça tient à cette union bancaire, c'est-à-dire au fait que, oui, quand survient un coup dur, d'abord, il n'y a plus, je crois, de possibilité d'avoir un coup dur systémique, dans la mesure où la supervision exercée par la Banque Centrale Européenne permet de connaître bien la situation des banques et puis de faire respecter un certain nombre de
critères. La situation italienne, par exemple, si jamais elle venait à dégénérer, ne serait pas un problème pour l'euro?
C'est quelque chose que nous sommes en train de traiter, précisément, parce qu'il faut le traiter en amont, et il faut le traiter de manière coopérative et trouver des solutions qui, justement, respectent aussi un certain nombre de règles, c'est notamment la contribution du privé à la recapitalisation des banques. Mais en termes de résolution, par ailleurs, nous sommes dotés de mécanismes à la fois nationaux. Quand j'étais ministre du Comité des Finances, on a voté une loi, trop critiquée à mon sens, plutôt bien, sur ce terme-là de la résolution. Et puis il y a les mécanismes de résolution européenne. Il faut aller encore plus loin, je disais, par exemple, faire en sorte que les mécanismes dits de backstop, de garantie pour le fonds de résolution, soient mis en place. Je ne veux pas commenter trop ce que apparemment les Américains s'apprêtent à faire. Je veux dire que pour ce qui nous concerne, nous devons continuer à aller dans le sens de l'assainissement et du renforcement de notre système financier et des garde-fous publics communs que nous avons mis en place, parce que, encore une fois, c'est la garantie des dépôts, des déposants, qui est en cause là, et nous tenons beaucoup à faire en sorte que l'économie financière européenne soit saine pour les concitoyens européens.
Il y a un sujet dont on reparle un peu en ce moment, c'est la situation de la Grèce.
En effet, un peu beaucoup.
Il y a une discussion entre, d'un côté, le FMI, de l'autre côté, la Grèce, et encore d'un autre côté, l'Union européenne, avec un une menace du FMI de se retirer de, des discussions. Enfin, on a l'impression que dans cette affaire, en fait, tout le monde est un peu responsable de la situation. Les Européens, aux yeux du FMI, un peu trop optimistes. Du coup, le FMI dit, bah, si vous êtes trop optimiste, nous, on va demander des garanties supplémentaires. Comment cette situation peut-elle se dénouer, selon vous? Quelle est la solution la plus probable?
Je suis le négociateur de la Commission sur la Grèce. Je serai encore à Athènes mardi et mercredi. Et je veux le dire, notre appréciation, et je donnerai demain les prévisions économiques de la Commission, demain matin, et que l'économie grecque se redresse. Elle se redresse dans sa croissance, elle a connu une croissance positive à la, trois derniers trimestres de 2016, et ça devrait être positif en 2017. Elle se redresse dans ses finances publiques, les objectifs de finances publiques sont non seulement tenus, mais dépassés. En ce moment. Elle se redresse parce qu'elle a fait des réformes, pas simples, réforme des retraites, réforme de l'énergie, réforme du marché du travail, réforme de l'administration publique. C'est pas une question de bravo, parce que ça n'a pas été totalement spontané, c'était pas son orientation initiale. Mais oui, aujourd'hui, ce gouvernement grec et les autorités grecques, je l'écris dans mon livre, jouent le jeu. Et quand on est dans cette situation-là, il ne faut en effet pas les accabler. Et il faut que les partenaires de la Grèce prennent de leur côté leurs responsabilités. Alors,
c'est qui les partenaires de la Grèce dont vous parlez?
Les partenaires Grèce, ce sont les États membres, parce que ce sont eux les créditeurs, et c'est le Fonds monétaire international qui est un partenaire de confiance, et c'est bien sûr les institutions européennes à stricto sensu, que sont la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Nous aurons le 20 février un Eurogroupe, une réunion des ministres de l'économie et des finances de la zone euro. Je pense que c'est une réunion importante, parce que et après on va rentrer dans un cycle électoral compliqué, avec les élections aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, et puis à un moment donné peut-être en Italie, et en tout cas au plus tard en février 2018. Et c'est le moment de conclure ce qu'on appelle la deuxième revue du programme. Je souhaite qu'on puisse trouver des termes tels que les équipes dites des institutions, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le mécanisme européen de stabilité puissent retourner à Athènes dans les jours qui viennent pour préparer la conclusion de la deuxième revue le 20 février. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a eu des réunions non conclusives, mais qui ont marqué aussi des progrès. Allons jusqu'au bout du progrès, parce que c'est gagnant-gagnant. Et dans ce monde compliqué, honnêtement, avec ce pays qui maintenant redresse la tête et fait des efforts, créer une crise à froid serait absurde et dangereux. Donc que chacun garde son sang-froid, que chacun fasse les efforts, et les Grecs ont des réformes à faire encore. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, que tout a été fait. Non, non, il faut que l'économie du pays poursuive son redressement, mais nous devons l'aider. C'est notre devoir.
Encore une petite question sur l'euro. On constate que l'euro fonctionne bien pour l'économie des pays du Nord, un peu moins bien pour l'économie des pays du Sud. D'ailleurs, vous reprenez souvent à votre compte l'affirmation de Jacques Delors, je le cite, l'ancien président de la Commission, bien sûr. L'euro qui protège contre l'instabilité et la spéculation est une force dans le monde, mais l'euro ne dynamise pas l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer pour que l'euro dynamise l'économie, notamment celle des pays du Sud?
Avant de dire ce qu'il faut changer, disons quand même ce qui va. Parce qu'on voit que dans la campagne présidentielle française, il y aura un courant anti-euro, qui d'ailleurs n'est pas suivi par les Français, qui à 68% sont favorables à l'euro, qui est un courant économiquement et politiquement absurde. Moi, je n'ai pas de nostalgie de la situation d'avant l'euro. L'euro, c'est une protection pour nos patrimoines. L'euro, ce sont des taux d'intérêt beaucoup plus faibles qu'avant la crise pour les Français. L'euro, contrairement à ce qui est dit, c'est beaucoup moins d'inflation que dans les années 90 et au début des années 2000. Et l'euro, c'est un élément de
Européens
force.
Mais les Européens ont la mémoire courte.
Non, je ne crois pas. Vous savez, on parlait des Grecs il y a une seconde. Voilà un peuple qui a perdu 27% de son PIB pendant la crise, et avec des politiques qui sont des politiques dures. 75% des Grecs sont favorables à l'euro. Pourquoi? Parce qu'intuitivement, ils le savent. Ils savent que s'ils étaient rendus à eux-mêmes, si on reprenait les errements d'avant, et s'ils retrouvaient la drachme, l'économie serait tout simplement ruinée. Donc non, il y a 60 à 70% des Européens, ça dépend des pays, qui sont attachés à l'euro, ils ont raison. Et de ce point de vue-là, ceux qui proposent de sortir de l'euro, comme Madame Le Pen en France, sont des apprentis sorciers, des irresponsables, qui proposent pour le pays des solutions masochistes, voire suicidaires. Une France qui sort de l'euro, c'est la France qui retrouve la situation du début des années 90 avec des taux d'intérêt qui seraient 500 points de base au-dessus de ceux de l'Allemagne. C'était ça la situation. Et ceux qui veulent emprunter pour investir, pour acheter leur maison, pour consommer, cela serait, pour le coup, carrément dépouillé. Et la valeur des patrimoines serait affaiblie. Bon. Ayant dit ce qui allait, je ne veux pas non plus cacher ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est vrai, et c'est ça qui nourrit aussi le sentiment anti-euro qui existe. Hein. Il y a 68% pour, il y a 32% contre. C'est le sentiment qu'il y a une trop grande divergence entre les économies, compte tenu de l'application trop mécanique de certaines règles. Je ne pense pas qu'il faut revoir les règles. Il faut sans doute toujours les simplifier, les améliorer. Mon rôle, c'est de les appliquer. Et je pense qu'on des règles de bon sens, on y viendra peut-être. Moi, je pense par exemple que pour la France, être en dessous de 3% de déficit, je le dis à tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est du bon sens. Et c'est lutter contre l'endettement, et c'est un élément de crédibilité très puissant. Non, ce qu'il faut revoir, en revanche, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut ajouter aux règles des procédures, des décisions qui sont des décisions institutionnelles. On parle de l'Eurogroupe, par exemple. Il faut plus de démocratie, il faut plus d'ouverture, il faut un leadership plus assumé avec un ministre des Finances de la zone euro, et puis il faut ajouter des politiques. C'est-à-dire, ce qui dynamise, c'est d'avoir des instruments qui permettent de mettre en place des politiques de convergence, et notamment de faire en sorte que les pays qui ont des excédents budgétaires, c'est le cas notamment de l'Allemagne, des Pays-Bas, qui ont des excédents courants, c'est le cas de l'Allemagne, c'est massif, 250 milliards d'euros d'excédents de commerce extérieur pour l'Allemagne, 50 milliards de déficit. Alors, il faut que la France balaye devant sa porte, mais enfin, là, on voit bien qu'il faut que les pays qui ont des marges de manœuvre investissent avec les autres, pour les comptes des autres, pour la croissance des autres.
Et donc ça, vous arrivez à convaincre M. Schäuble, le ministre des Finances allemand?
Je pense que la campagne électorale est un moment où les choses vont se décanter. D'abord, il n'y a pas que M. Schäuble. Vous observez maintenant que dans la campagne électorale allemande, il y a deux partis qui sont à touche-touche, avec Martin Schulz qui fait un début de campagne qui redresse le SPD. Je ne prends pas position dans la campagne allemande, mais je dis simplement que s'il y a cette montée, c'est parce qu'il y a aussi en Allemagne une aspiration sociale qui existe, et que Mme Merkel, elle connaît, et que mon ami Wolfgang Schäuble, je pense, saura entendre aussi. Il y aura après les élections, je pense moi qu'après les élections allemandes, va s'ouvrir une fenêtre d'opportunité fantastique. S'il y a en France un président français à la hauteur, pro-européen, conscient de ses exigences et de ses devoirs, qui est capable de relancer l'Europe avec l'Allemagne, alors oui, peut s'ouvrir une nouvelle période où, je dirais que l'échange, l'accord, c'est d'un côté une France qui fait des réformes, qui continue des réformes pour être plus forte économiquement, qui continue d'être crédible budgétairement, parce qu'une France qui n'est pas crédible budgétairement s'affaiblit vraiment puissamment en Europe, et de l'autre côté, une Allemagne qui accepte d'investir plus et aussi de relancer la zone euro en mettant en œuvre ces mécanismes de gouvernance et ces mécanismes d'action, de politique dont nous avons besoin. Ce qui permettra de faire en sorte que, pour écouter Jacques Delors, qui est notre maître à tous en matière européenne, l'euro protège, c'est déjà le cas, mais qu'il dynamise aussi. C'est une formule qu'en effet je fais totalement mienne.
Carrefour de l'Europe sur RFI, nous sommes avec Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, on va aborder un peu les élections que vous avez évoquées. Nous en faisant un petit détour par la rédaction du Courrier International, via une question d'Éric Scholl, le directeur de Courrier International, qui meurt d'envie de vous poser cette question.
Bonjour Pierre Moscovici. Alors, du Royaume-Uni au Portugal, en passant par la Belgique ou l'Autriche, toute la presse européenne a les yeux rivés sur Marine Le Pen, à l'instar du quotidien flamand Morgen, qui estime, lui, qu'un boulevard s'ouvre à droite pour la candidate du Front National. Ce scénario d'une arrivée possible de Marine Le Pen à l'Élysée est désormais donc possible, c'est ce que nous dit la presse étrangère, une presse qui s'inquiète des conséquences, évidemment, pour la France, mais aussi des répercussions sur l'Union européenne. Alors, Monsieur Moscovici, vu de Bruxelles, comment est-ce que l'Union européenne, qui a déjà subi des grosses secousses au cours de ces derniers mois, pourrait supporter ce tremblement de terre politique que représenterait l'élection de Marine Le Pen ?
Pierre Moscovici.
D'abord, c'est vrai que moi, je suis très frappé de voir mes collègues de tous les pays, les parlementaires, les médias européens, être très très inquiets de la montée de Marine Le Pen. Les marchés financiers commencent aussi à en être inquiets. Et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Je vais vous donner ma conviction personnelle. J'ai écrit un livre où je commence par dire...
On allait venir.
J'ai fait un cauchemar, elle est élue présidente de la République. Ça ne devrait pas arriver. Je crois qu'il ne se trouvera pas en France, dans ce pays attaché à ses valeurs, attaché à sa démocratie, attaché à son art de vivre, et attaché à l'Europe et attaché à l'euro, il ne se trouvera pas 50% de personnes pour voter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen. Ça ne devrait pas arriver. Et je le dis là pour rassurer mes amis européens, non, Marine Le Pen ne sera pas la prochaine présidente de la France. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, elle a l'électorat le plus solide et le plus compact, elle est sans doute en tête au premier tour, en tout cas elle l'est dans tous les sondages d'opinion, tous, et elle monte pour le second, et même si elle faisait 25-30 au premier et 40 au deuxième, ça représenterait un choc considérable. C'est la raison pour laquelle il faut combattre le lepénisme, combattre Marine Le Pen, combattre le populisme. Moi, je ne suis plus aujourd'hui un homme politique au sens classique du terme, appartenant à un parti. J'appartiens à un parti, mais faisant campagne,
par exemple. Je ne serais pas candidat aux législatives.
Je ne serais candidat à aucune fonction jusqu'en novembre 2019. Après, on verra. Et je ne serais pas candidat, ou plutôt, je n'irais pas faire un débat avec un candidat de la droite classique ou avec du Parti socialiste, par exemple. C'est pas mon rôle. Moi, je dois parler d'Europe. Mais comme je suis un Européen et un antipopuliste, et cette commission est antipopuliste, je le dis, Madame Le Pen est un danger qu'il faut combattre. Et de ce point de vue-là, vous m'interrogiez, enfin m'interrogez sur quelles sont les conséquences, quelles seraient les conséquences de l'élection. C'est simple, ce serait la fin de l'Europe. Si le projet de Marine Le Pen était mis en œuvre, c'est-à-dire elle tente pendant 6 mois une renégociation des traités sur la base d'un démantèlement en réalité de l'Europe, d'une réappropriation souveraine de tous les outils européens, qui évidemment ne rencontrerait aucune forme d'adhésion. Puis 6 mois après un référendum, la France sortirait de l'Union européenne. Une France qui sort de l'Union européenne, c'est à la fois une catastrophe pour la France, parce qu'elle se trouve réduite à elle-même, affaiblie, rabougrie, ratatinée, et aussi privée de cette ombrelle fantastique qu'est l'euro, et de cet outil de projection dans le monde qu'est l'Europe. Nous pesons par l'Europe. Et il y a d'ailleurs quelque chose de stupide, je le dis comme ça, dans ce que dit Madame Le Pen, c'est qu'elle ne réalise pas à quel point, quand on est président français, et elle aspire à l'être, il faut être pro-européen, parce que c'est notre capacité à peser dans le monde. Et il n'y a pas d'Europe forte s'il n'y a pas une France forte. Il n'y a pas non plus de France forte s'il n'y a pas une Europe qui l'accompagne. Donc ça, c'est les conséquences catastrophiques pour la France, mais c'est la conséquence catastrophique pour l'Europe. L'Europe, elle a été bâtie pour la réconciliation franco-allemande. Si la France venait à partir, ou si la France veut démanteler les traités, il ne reste plus rien du projet européen. Donc, voilà pourquoi ce que propose Madame Le Pen est un vrai danger pour la France, un vrai danger pour l'Europe. Voilà pourquoi il faut le combattre avec beaucoup d'énergie. Quand je dis le combattre, c'est le combattre démocratiquement, c'est le combattre dans le débat, c'est le combattre dans les idées, mais c'est ne pas considérer que c'est anodin. Madame Le Pen s'est peut-être dédiabolisée, elle ne s'est pas banalisée. Elle reste une candidate d'extrême droite qui propose des thèses anti-européennes qui sont redoutable pour notre pays.
Alors Pierre Moscovici, il ne vous a pas échappé que l'on parle peu d'Europe dans la campagne présidentielle, et ceux qui en parlent le plus, vous venez de le dire, sont ceux qui en disent pique-pendre, c'est-à-dire les populistes de droite et de gauche. D'ailleurs, vous venez de publier un livre où vous abordez longuement le sujet, « S'il est minuit en Europe », il est publié chez Grasset. Alors ça pose un problème notamment pour ceux, les pro-européens, dans votre parti, car dans la primaire de la gauche, il y avait très très peu de pro-européens, notamment ils étaient tous des nonistes historiques, ils étaient prêts à casser la vaisselle à Bruxelles. Ça pose quand même un problème pour le socialiste que vous êtes.
D'abord, je veux pas tomber dans l'amalgame. Je pense qu'il y a vraiment un cas à part, qui est Marine Le Pen, parce que c'est le populisme anti-européen d'extrême droite. Et puis après, il y a un débat européen, avec des gens qui sont plus ou moins européens, qui respectent plus ou moins les règles, qui sont plus ou moins enthousiastes, qui sont plus ou moins souverainistes, mais qui ne sont pas dans la négation de l'Union européenne, aucun d'eux. Et pas le candidat socialiste, qui est un candidat pro-européen.
Bah, tout de même, Clémentine Forissier.
Mais il est très critique, vous avez dit.
Mais dont le réalisme pourrait s'améliorer.
Alors,
je vais vous dire une chose. Je suis prêt, moi, comme commissaire, à rencontrer tous les candidats, à part Madame Le Pen, parce que ça se passerait pas bien. On n'aurait pas grand-chose à dire, en réalité. Mais tous les candidats, pour parler avec eux, des intérêts de la France en Europe, des règles européennes.
Vous l'avez pas encore fait, donc.
Non, je l'ai pas fait, mais je profite de ce que je suis ici pour lancer cet appel. Je pense d'ailleurs que ce serait tout à fait normal que le commissaire européen français, en plus chargé de l'économie et des finances et de la fiscalité et des douanes, rencontre chaque candidat pour simplement expliquer ce que nous sommes, et ce que la France doit à l'Europe, est-ce que l'Europe attend de la France.
Et notamment aussi des institutions européennes, parce que Benoît Hamon a eu des mots assez durs vis-à-vis de la Commission en disant si je suis élu, la Commission européenne, ce sera au revoir. De son côté, François Fillon a clairement fait savoir que la Commission européenne, ce n'est pas sa tasse de thé et que de toute façon, il n'y a point de salut en dehors d'une gouvernance plus forte des États membres. Enfin, l'institution dont vous faites partie, elle est vraiment très critiquée en France, notamment parmi les candidats. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, qui êtes dans cette institution depuis 2014, est-ce que vous trouvez que c'est totalement injuste ?
Ça m'inspire un sourire et beaucoup de sang-froid. Parce que je serai là, et la Commission européenne sera là jusqu'en 2019, et puis elle sera encore là après, puis elle sera encore là après le prochain
Donc
président.
C'est pas la Commission de la dernière chance.
Si, c'est la Commission de la dernière chance, au sens où vraiment on doit redresser l'Europe. Mais la Commission est une instance essentielle, parce que c'est elle qui propose, c'est elle qui défend l'intérêt général européen, c'est pas elle qui dispose. C'est toujours les États membres qui
disposent. C'est juste qu'ils n'ont pas compris, alors, ces candidats.
C'est qu'ils font semblant de pas comprendre, parce qu'il n'y a pas une décision en Europe qui soit prise sans les États. Et souvent, on a tendance à tirer sur le pianiste bruxellois, ou à se défausser sur lui, de responsabilités qu'on doit prendre soi-même, qu'on aurait dû prendre soi-même, ou d'erreurs qu'on a fait soi-même. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Mais je veux quand même prendre ça au sérieux. Et si je vois Benoît Hamon ou François Fillon, je sais ce que j'aurais à leur dire. À Benoît Hamon, je lui dirais, parce qu'il parlait pas de la Commission en général, il parlait de la politique sociale. J'étais invité, je vous le disais tout à l'heure, à la CFDT. C'était jeudi matin, avec Michel Barnier et Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien. J'étais, il y a 15 jours, dans un grand forum, avec tous les syndicats européens. Et là, il y a eu, pour un candidat socialiste, il y a eu une erreur, hein, qui est un contresens. Partout en Europe, on attend l'Europe sociale. Et personne ne nie que la Commission est un partenaire décisif. La Commission propose un socle européen de droits sociaux. La Commission propose une réforme ambitieuse de la directive sur les travailleurs détachés, qui doit permettre de faire en sorte que ce soit à travail égal, salaire égal. La Commission propose aussi qu'il y ait un SMIC dans chaque pays de l'Union européenne. On attend beaucoup. Et donc j'ai envie de dire, Benoît, là tu te trompes, tu te voyais. Enfin, c'est pas au revoir et merci, c'est bonjour et discutons. Quant à François Fillon, qui s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer Jean-Claude Juncker, c'est vrai qu'il est aussi un héritier de Philippe Séguin, qu'il a sans doute plus de confiance dans la gouvernance nationale que dans la gouvernance européenne, mais il a été Premier ministre de la France, il sait comment les choses fonctionnent.
C'est une posture, alors.
Non, je pense que c'est une vraie conviction chez lui. Et en même temps, je pense que c'est méconnaître le fait que la France a vraiment intérêt à une commission forte, une commission qui propose. Et souvent, la commission propose dans le sens des idées françaises. Je pense qu'en France, on a beaucoup d'idées sur l'Europe, mais on manque un peu de fiabilité ou de crédibilité. Et les Allemands sont très crédibles et très fiables, et parfois ils attendent aussi des idées de notre part. Et ce que moi j'attends du prochain président français, c'est ça, c'est qu'il soit une force motrice, une force de proposition, une force
Alors,
de projet dans l'Europe. Et je le dis à tous, vraiment, leur responsabilité dans cette période très compliquée en 2017, c'est de participer à la relance de l'Europe avec l'Allemagne et avec la Commission.
Alors justement,
parce que on parle toujours de Jacques Delors, le bon âge de l'Europe, les années 80-90, c'était un président français, François Mitterrand, un chancelier allemand, Helmut Kohl, et un président de la Commission français par ailleurs, Jacques Delors. Et c'est comme ça qu'on avance.
Alors justement, parmi les candidats potentiels et susceptibles d'arriver jusqu'à l'Élysée, il y a évidemment François Fillon, vous l'avez évoqué, il y a évidemment Benoît Hamon, pourquoi pas, puis il y a aussi Emmanuel Macron, le candidat qui distribue des drapeaux européens dans ses meetings et qui fait applaudir l'Europe, il est le seul. Alors il est votre candidat naturel, il est devenu votre candidat naturel, Emmanuel Macron, parce que vous allez quand même voter en France.
Bah, je voterai à la fin, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un homme qui réfléchit et qui regarde, parce que je suis un Européen, j'allais dire, c'est ma fonction aujourd'hui, et puis en plus c'est ma vie, c'est mon engagement.
C'est plus qu'une fonction, c'est quand même une conviction.
C'est plus qu'une conviction, c'est un engagement très profond de ma part et depuis très longtemps. Et puis en même temps, je suis un homme de gauche et aussi depuis très longtemps. Et j'arrive pas bien à réconcilier les deux, à vrai dire. Enfin, en tout cas, pour moi, je réconcilie les deux, mais je cherche le candidat de la gauche européenne qui va...
Alors vous l'avez trouvé, c'est Emmanuel Macron ?
Non, c'est là qu'est le problème, parce que Emmanuel Macron est un Européen. Et vraiment, je suis content qu'il dégage cet optimisme européen, qu'il ait cette proposition européenne. Et ça prouve d'ailleurs que les Français ne sont pas tous des eurosceptiques, racis, et qu'il y a encore cette capacité à s'enthousiasmer pour ce grand projet. Après, il faut aussi qu'il précise les choses, y compris sur l'Europe. Par exemple, j'attends de savoir ce qu'il ferait en matière de déficit et de financement de son propre programme, parce que la règle de 3%, elle s'appliquera à tous, quel que soit le président de la République. Mais là où je suis plus gêné avec Emmanuel Macron, et moins satisfait, forcément, c'est comme homme de gauche, parce que le ni droite ni gauche, c'est pas ma tasse de thé. Je pense qu'il y a une ambiguïté, là, dont on ne sort souvent qu'à son dépens, et qu'il faut vraiment dire où on est, parce que on ne représente pas tout à fait les mêmes courants politiques. La confusion, le syncrétisme, aboutit parfois à un flou qui est dommageable. Et puis, il y a une dernière chose qui me gêne. Je voyais qu'il disait tout à l'heure que la politique, c'était une magie, une mystique, qu'il ne reniait pas une dimension christique, même s'il la revendiquait pas. c'est pas ma tasse de thé non plus. Je pense que la politique, c'est du débat collectif, c'est des programmes, c'est de l'action concrète, c'est du collectif. Et une politique qui se réduit effectivement à un rapport mystique ou magique, ça embarrasse le rationaliste social-démocrate et socialiste que je suis depuis toujours.
Alors,
candidat naturel, je n'en ai point. L'européen que je suis apprécie ce que Emmanuel Macron et attend encore un peu.
Pour l'instant, il réfléchit, hésite.
L'homme de gauche n'est pas rassasié par cette offre politique nulle part, d'ailleurs.
Bon, vous n'avez pas encore fait votre choix.
J'attends franchement de voir aussi les programmes, parce que là, pour le coup, je le dis, on a besoin que cette campagne électorale, elle inquiète beaucoup de gens, hein, sorte des anathèmes lepénistes, des affaires qui, je pense, ne peuvent pas être le débat. Hein. À un moment donné, il faut quand même qu'on entre dans la substance. Et puis, on a besoin de précision aussi sur les programmes. Donc, à l'heure actuelle, je suis comme beaucoup de Français. Je suis encore en attente, même si je conserve, je veux rassurer ceux qui en douteraient, mes convictions, mes engagements. Je suis un socialiste, je suis un social-démocrate européen. Alors, j'ai été voté aux deux tours des primaires.
Et Macron, mon cœur balance.
C'est pas une question de cœur. Il faut le cœur et la raison. Il faut la gauche et il faut l'Europe. Et j'aimerais d'être totalement satisfait.
Merci Pierre Moscovici d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle le titre de votre livre, S'il est minuit en Europe, chez Grasset. Merci à Clémentine Forissier, contexte.com. Réalisation audio et vidéo, Guillaume Munier. Via RFI.fr sur la page Carrefour de l'Europe, vous pourrez réécouter, voir ou revoir cette émission. De même sur les applis mobiles, mais gratuites de RFI. On reste en contact via Facebook et Twitter, bien sûr. Daniel Esquel, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. 7 milliards de